Happy birthday, Moz.
Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques instants, c'est le Ferry Club avec la troisième partie de l'entretien réalisé avec Patrick Ullmann, que vous allez donc pouvoir entendre dans quelques instants. Je voulais vous signaler avant de commencer cette émission que le théâtre Tourski connaît quelques difficultés, des pressions de la part du théâtre Tourski qui est à Marseille. J'en parle comme si c'était une évidence, mais je vais quand même préciser les choses. Théâtre Tourski, dirigé par Richard Martin, qui se trouve à Marseille et qui connaît des difficultés, des pressions de la part de la municipalité marseillaise. Et ils sont entrés en phase de résistance. Ils n'en sont pas encore à la grève de la faim, mais ils ont d'ores et déjà mis en ligne une pétition sur un formulaire de pétition. Je n'en suis pas friand, mais vous pouvez trouver de plus ample information sur le site du théâtre Tourski en lui-même. Voilà.
Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Donc bonjour à toutes et à tous. C'est le Ferry Club sur Radio Libertaire.
La Radio Libertaire, 89.5.
Oui.
On se bat. Hey.
Cette émission est dédiée à Nilda Fernandez. Salut à toi, Nilda Fernandez.
Il n'y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart espagnols, allez savoir pourquoi. Faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas. Les anarchistes, ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves vomitants, et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu qu'on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi, avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier. Ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie. Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Y en a pas un sur 100, et pourtant. pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
On va revenir en 1969, au moment où tu rencontres Léo.
Oui.
Et puis qui est finalement une rencontre déterminante, parce que c'est Léo qui t'impulse dans ce métier,
oui,
photographe. Il est,
oui,
hors de question que tu fasses autre chose. Et tu vas le suivre pendant près de 10 ans, Léo.
Avec des interruptions. Hein. On a eu plusieurs brouilles,
ouais,
pendant ces 10 ans. Et des moments où... Mais pour revenir à 69 quand même, et comment ça s'est vraiment déclenché, donc la première rencontre, Léo me dit on va faire un livre ensemble. Alors chaque soir, donc je l'abreuve de photographies pendant tout le temps de la location de l'appareil. Je le recouvre de photos. Et puis il me dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tout ça? Bah, tu m'as dit qu'on allait faire un livre. Oui, mais pas sur ma tronche. On va pas montrer 150 fois ma gueule. Je te promets qu'on va faire un livre ensemble, mais pas sur ça. Et puis il me dit, mais et toi, comment tu vis? Comment tu t'en sors? Tu viens là faire des photos? Tu ne demandes pas d'argent, tu fais des photos de moi. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans un magasin de photos, puisque c'était le cas à l'époque, hein. Je vends des appareils, je fais pas de photos, moi je suis pas photographe. Et là, il m'engueule comme du poisson pourri, il me dit, tu es photographe, et t'arrêtes de nous faire chier avec tes conneries, je vais faire ce qu'il faut, je te présenterai qui il faut. Et deux jours après, il me présente un mec, il dit, je te présente mon ami Richardson, à savoir Richard Marsan.
Qui est le directeur artistique, c'est ça?
Il était son directeur artistique chez Barclay. Et un ami de très longue date de Léo, mais qui en plus est un copain de Brel, et le directeur artistique de Charles Aznavour, pas encore de Lavilliers, après il sera de Lavilliers. Et je rencontre ce fameux Marsan, qui était un type, moi je l'ai trouvé formidable. Il avait un gros problème, c'était un alcoolisme terrible, qui faisait que parfois il était complètement, gravement atteint, quoi. Quand il était en crise de délirium ou de je sais pas quoi, c'était grave quand même. Mais c'était un type formidable, et qui s'est mis à ne jurer que par moi. C'est-à-dire à me faire faire parfois des photos qui n'étaient pas passionnantes, mais parce que chez Barclay, il s'occupait d'autres personnes. Un disque qui s'appelait La Missa Criolla, qui était chanté par je ne sais plus qui d'ailleurs à l'époque. Il a fallu que je photographie ces gens-là. Bon. Mais surtout, il m'a fait devenir aussi photographe d'Aznavour.
Ah oui.
Qui est aussi, on ne va pas parler d'Aznavour, je n'ai pas la même tendresse ni liaison avec Aznavour, mais qui est, enfin, moi, je le trouve un type formidable. Avec tout ce qu'on peut lui reprocher comme défaut, moi, je les retourne et j'en fais des qualités chez Aznavour. Qui était un teigneux, un rageur, un mec qui voulait, quoi. Il voulait être Aznavour avec A majuscule jusqu'au R majuscule, mais j'ai trouvé ce type formidable. Et j'ai travaillé presque autant pour Aznavour que pour Ferré. Sauf qu'on n'a pas eu l'amitié qu'il y a eu. Mais il y a eu une grande camaraderie. Et il y a eu jusque... très tard, une grande fidélité avec Aznavour. Était un homme très fidèle. Et quand j'ai voulu le refotographier après, alors que je faisais une fois encore plus de photos, et après la mort de Marsan, Aznavour m'a toujours reçu, même quand on en a dit, il n'en veut plus les photos, il a autre chose à faire que de... Le moindre coup de fil, Aznavour me rappelait pour que je vienne. Et ça, j'ai jamais oublié ça, quoi.
C'est une qualité.
Et lui me disait toujours, Vous m'avez été présenté par Richard Marsan, je ne peux pas oublier ça. Voilà. Après ça, on peut venir me dire n'importe quoi sur Aznavour. Et ce n'est pas des choses qu'on sait, ce n'est pas pour les pattes, ce n'est pas pour profondément un être formidable. Quoi. Et donc, Richard Marsan, ça m'a ouvert les portes de Barclay, ce qui n'était pas rien comme maison de disques. Et je me suis retrouvé à faire des pochettes pour Jean Ferrat, à faire des portes.
Voilà. Jean Ferrat aussi, ouais.
Oui, bien sûr. Ouais. J'ai pas eu le même coup de foudre pour Jean Ferrat. Ouais. C'était un homme bien, mais c'était pas au même niveau, quoi.
Et dis donc, alors c'est Richardson, on va l'appeler comme ça,
oui,
qui décide que c'est une de tes photos qui va servir pour faire la pochette de Bobino 69, ou c'est Léo?
Non, Léo exige que ce soit moi. Mais d'accord, il n'exige pas telle ou telle photo.
D'accord.
La photo, c'est Richard qui l'a choisie. C'est pas celle-là que j'aurais mise, moi, d'ailleurs. Voilà.
Pas très radiophonique ce que je fais, mais voilà le disque.
Voilà. Et là, c'est la fin de la chanson Pépé.
Sur ce moment-là,
oui,
ce moment-là.
Il s'adresse à Pépé.
Ouais. Il a le regard vers le haut.
Mais j'aime pas beaucoup cette photo. Mais bon, peu importe. Ah bon, non. Ouais, j'aime pas beaucoup. Mais il n'y a pas beaucoup de photos prises sur scène à Bobino que j'aime beaucoup. Parce que la scène de Bobino était très, très surélevée. Et on est toujours en contre-plongée.
Ouais.
Et que ça élargit la gueule. Que ça... Voilà, il y en a une que j'aime. Elle est d'ailleurs là-dedans. C'est une photo où il chante le spleen de Baudelaire. Voilà, celle-là. Le portrait, dirait masque mortuaire de Baudelaire.
Oui, absolument.
Cette photo-là, je l'aime bien. Les autres, faut croire qu'elles étaient bien quand même, puisqu'ils ont choisi celle-là.
Bah oui, oui. Et puis que malgré tout, cette photo est tout de même un peu iconique, quand même, même celle
oui,
de
et puis
la
que
couverture.
Pour moi, elle est ma première pochette de disque.
Bien sûr. Ouais, tu en feras d'autres, on va en parler tout à l'heure, mais c'est vrai que celle-ci, elle est...
J'ai fait une pochette avant, encore une anecdote, pas de Léo, du temps d'Europe 1, une pochette de disque complètement merdique, et que j'aimerais beaucoup retrouver, d'un groupe qui s'appelait les Keltons. Ça te dit rien, ça, hein?
Ah, rien du tout.
La personne. Les Keltons, c'était une marque de montres, qui avait décidé des montres un peu jetables, tu vois. Et ils avaient décidé de se faire de la pub en fabriquant et en finançant un groupe yéyé, pas l'imitation des Beatles, qui s'appelait les Keltons. Et ils étaient produits par Lucien Maurice, le directeur d'Europe 1.
D'accord.
À ce moment-là, Lucien Maurice m'a demandé de faire une pochette ringarde, épouvantable. Et ma première vraie pochette de disque, c'est les Keltons. On a bien oublié.
Il t'a demandé qu'elle soit ringarde.
Il m'a demandé qu'elle soit comme ci, comme ça.
Ouais, ouais. Et bon, les critères qu'il te demandait, c'était...
C'était épouvantable. Ouais. Voilà. J'ai été quand même fier d'avoir mon nom sur une pochette de disque.
Bah, oui, bien sûr. Ouais, c'est pas rien.
Voilà. Et après, donc, ça, la première vraie pochette. Et là, on m'a demandé, parce que chez Barclay, c'était comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être payé ou vous voulez votre nom sur la pochette? J'ai dit, évidemment, mon nom sur la pochette. Alors, plein de pochettes de disques, pratiquement pas payées. C'était un deal. Il me faisait de la pub en signant ma photo.
D'accord. Oui, c'est pas mal non plus.
Personne ne regarde jamais le nom du photographe sur
c'est
une
vrai,
pochette.
Ouais. Ouais.
Et moi, j'avais que ça pour bouffer, quand même.
Mais alors, qu'est-ce qui t'a fait choisir alors plutôt le nom que le petit chèque?
Parce que j'avais envie qu'on sache que c'était moi qui avais fait la photo. C'est simple. Quand on est créateur à quelque niveau que ce soit, on a envie d'être un peu reconnu, d'être un peu... C'est pas de la putasserie. Sinon, on n'a pas de raison de le faire. Quoi. Tu vois, c'est... Enfin, moi, je sais que si je suis photographe, j'aurais pu être aussi musicien, j'aurais pu... Mais enfin, en tout cas, dans cette direction-là, c'est parce que je n'ai pas d'autres moyens, et là, je suis en train de te prouver le contraire, mais je pensais que je n'avais pas d'autres moyens de m'exprimer qu'en faisant des images.
Oui, avec un micro, tu te débrouilles très bien aussi.
Mais oui, mais parce que je suis devenu une vieille pute de 77 ans. Mais, et parce que j'ai beaucoup regardé et écouté les autres, tu vois. Mmh. Mais si je fais des images, d'abord c'est pour faire des belles images, c'est pour être aimé par la personne que je photographie, et puis c'est pas... ben, j'ai besoin que ce soit moi, quoi, qu'on sache que c'est Patrick Ullmann qui l'a fait. Donc y a, entre l'argent et le fait qu'on sache que c'est Patrick Ullmann, ce sera toujours le fait qu'on sache que c'est Patrick Ullmann.
Bien sûr.
Ce qui est un peu vain peut-être, mais...
Bah non, mais...
C'est important, quoi.
Ouais, complètement, complètement légitime.
Voilà.
Et tu vas suivre Léo, alors quand même, donc comme tu disais, quelques petites brouilles, mais tu vas quand même le suivre pendant pas loin d'une dizaine d'années. Tu vas aller le voir en concert, tu vas être présent aussi dans...
Certaines tournées.
Certaines tournées, ouais.
Et tous les enregistrements.
Voilà.
Pendant toute cette période-là. Toute la période, jusqu'à la fin de la période Barclay, et le premier disque chez CBS. Je serai à tous les enregistrements, et 90% de mes photos viennent des séances d'enregistrement avec Léo. Je n'ai jamais fait poser Léo. Poser. C'était pas la peine d'ailleurs, parce que pendant, dans la cabine d'enregistrement, la cabine d'écoute, c'est là que je faisais le plus de photos. C'est pas quand il chantait. Quand il avait fini une prise, il venait dans la cabine et il s'asseyait pour écouter. Et on était en petit comité. Hein. Il y avait Marsan, il y avait le chef d'orchestre à l'époque où Léo avait son orchestre dirigé par Jean-Michel Defay. Donc il y avait Marsan, il y avait Defay, l'ingénieur du son, Léo et moi. Voilà. Et les plus belles photos, elles ont été faites dans cette petite cabine du studio Hoche chez Barclay.
Studio Hoche, ouais.
Pendant des nuits entières, parce que les enregistrements, ça durait des nuits entières. Et là, Léo, ben, il était lui-même, il était... Et on était arrivé à une relation telle que... J'étais pas là, quoi. Il y avait aucun moment la gêne d'avoir un appareil photo là, parce que...
Tu étais dans le décor, entre guillemets. J'étais
complètement dedans, et... Ça m'a permis de faire des photos formidables que d'autres ne pouvaient pas faire.
Et qu'il soit parfaitement détendu en ta présence, qu'il avait oublié qu'il y avait le...
Il a complètement oublié. Oui.
L'appareil photo.
Complètement. Voilà. Mais tu avais vu, j'avais fait un bouquin sur ça,
ouais.
Qui s'appelle Thank You Léo, où j'ai... Il y a 96 photos de Léo, et 70 sont faites pendant les séances.
Il est encore disponible, ce livre ?
Non, il est épuisé.
D'accord. Bon, ne cherchez pas à vous le procurer.
Ah, il passe de temps en temps sur Internet.
Oui, quand même.
En occasion, on le trouve.
D'accord. Ah, en occasion, ouais, voilà, ouais. Il y a des souvenirs particuliers de concerts avant l'enregistrement. Tu avais parlé de l'enregistrement, on va en dire un petit mot, mais tu avais parlé de l'enregistrement notamment de Et Basta, où c'était un moment, lors de l'émission de juin, tu nous avais dit que c'était un moment vraiment particulier parce qu'il y avait beaucoup moins de monde autour de Léo.
Oui, il n'y avait plus personne.
Donc on va parler de ça, mais est-ce qu'en concert, est-ce que tu as des souvenirs particuliers du moment où tu accompagnes Léo dans toutes ces années-là?
Oui, quelques anecdotes rigolotes. À la Mutualité, Léo chante Pépé, qui chantait... Là, on est en 70. Et Suzy, la femme de Joyeux, qui était une femme adorable, invraisemblable, vient vers moi, elle me dit « C'est beau quand même, la chanson que Léo a écrite pour son grand-père.
» Un peu à côté de la plaque.
Mais c'était mignon comme tout.
Bah ouais, complètement, ouais.
Une anecdote, encore à la Mutualité, mais une anecdote dure. On devait être en 72. Ça remuait beaucoup dans la salle. Léo était terriblement contesté. Il y avait des choses terribles.
La Nara La Rolls, tout ça, ce genre de choses.
Entre autres, mais ouais. Au-delà de ça, c'est le moment où l'autre con avait dit... excuse-moi, tous les noms m'échappent. Hein. L'autre con avait dit, prenez des pavés, foutez-lui sur la gueule.
Ah, c'est bien.
Mais cela dit, les gens venaient avec des pavés dans la salle, quand même, tu vois. C'était...
L'autre con, tu sais plus qui c'est. Enfin, t'as oublié son nom.
Oh, le scandaleux qui a écrit sur Mitterrand.
Ah oui, Jean-Édern Allier.
Oh.
Oh, oui.
Qui avait lancé les mots d'ordre, il fallait attaquer Léo, il fallait... Et un soir, pour le gala à Nard, hein, Léo n'a pas arrêté de prendre des crachats et des projectiles sur la gueule. Et il y a quelqu'un qui dit « Eh, vas-y donc, le poète !» dans la salle, mais... Et Léo fait « Et le poète, il t'emmerde !» Et il a quitté la salle, et il est parti dans la rue. Et Maurice Fro et moi, on lui a couru après pour qu'il revienne sur scène. Il ne voulait pas, tu vois. C'est des moments terriblement durs.
Ouais, c'est...
Vraiment, une autre anecdote. Alors Léo, donc l'Olympia. Tout le monde dit à Léo, il faut faire l'Olympia. Et Léo dit, mais de toute façon, je ne peux pas. Coquetrix et moi, on est... Ben oui. T'as cabaré avec des X et tu seras sur l'affiche à Coquetrix.
Ouais,
ça restait beaucoup la mafia, quoi. Et Coquetrix avait envie d'avoir Léo. Et il me dit, on pourrait organiser... pourriez vous occuper de ça? On pourrait faire un déjeuner ensemble, essayer de... Et j'ai été chargé d'organiser une rencontre entre Coquetrix, Léo et Richard Marsan qui était là. C'était pour moi un peu... Oui, c'était un titre de gloire, tu vois, d'être arrivé à les...
À les réconcilier, à les remettre
réconcilier,
ensemble.
Réconcilier, les... pas ouais, forcément, pas, mais ouais. En tout cas les...
En tout cas, renouer le dialogue.
Voilà. Et là, j'avais eu l'impression que je faisais quelque chose d'important. Parce que c'était bien que Léo passe à l'Olympia. Et il y a eu une soirée à l'Olympia. Tout ça, c'est des petites anecdotes de cuisine. Mais un soir, Maurice Fleury... Alors Fleury, je savais parler de lui. Il avait été régisseur de Bobino. Et il s'était retrouvé régisseur de l'Olympia. Ça aussi faisait quand même un lien entre Bobino, Léo. Il y avait cette personne-là qui était là. Et un soir, Fleury arrive dans la loge de Léo. Lui dit, Léo... Je dois vous dire quelque chose, ce soir, Madeleine est dans la salle.
Donc c'était après leur séparation, bien
après
évidemment.
Après leur séparation, au moment le plus épique des relations épistolaires à travers la presse. La presse était devenue leur tribune. Léo et Madeleine s'invectivaient par encadré dans le Nouvel Observateur ou Libé. Enfin, c'était terrible. Et donc Fleury lui dit, ce soir, Madeleine vient et elle est au deuxième rang. Devant le micro. Et Léo dit annuler le concert. Je chante pas. Je peux pas chanter avec elle. Présente dans la salle. Et là, Fleury dit on ne peut pas. Les gens font la queue dehors pour rentrer. C'est vraiment le dernier moment. Il n'en est pas question. Il faut aller chanter. Alors Léo demande à Fleury et à Marsan d'essayer quand même de dissuader Madeleine de... Et ils obtiennent un compromis, c'est qu'elle se met au huitième rang, au lieu du deuxième rang, et sur le côté. Et là, Léo accepte d'aller de monter sur scène. Et il me dit, toi, t'es mon garde du corps. Alors tu te mets derrière le rideau, et si tu vois qu'elle fait le moindre mouvement près de son sac, tu te précipites devant moi. Parce qu'il avait peur qu'elle lui foute un coup de flingue. Parce que quelques mois avant, elle l'avait agressé au Don Camillo. Elle était montée sur scène lui foutre des gifles. Et Léo avait peur. Et je dis, elle va pas. Et Maurice Fro me dit, tu la connais pas. Elle peut le faire. Elle peut le faire. Et donc j'ai passé tout le récital.
Sur tes gardes.
Sur mes gardes, en disant, si elle bouge... Je fonce et je me mets devant Léo. C'est moi qui prends le pruneau, quoi. Voilà.
Je chante pour passer le temps petit qu'il me reste de vivre, comme on dessine sur le givre, comme on se fait le cœur content. À lancer cailloux sur l'étang, je chante pour passer le temps. J'ai vécu le jour des merveilles, vous et moi souvenez-vous-en, et j'ai franchi le mur des ans, des miracles plein les oreilles. Notre univers n'est plus pareil, j'ai vécu le jour des merveilles. À
Allons que ses doigts se dénouent comme le fronde avec la gloire. Nos yeux furent premiers à voir les nuages plus bas que nous. Et l'alouette à nos genoux, allons que ses doigts se dénouent. Nous avons fait des clairs de lune pour nos palais et nos statues. Qu'importe à présent qu'on nous tue, les nuits tomberont une à une. La Chine s'est mise en commune, nous avons fait des clairs de lune. J'en dirai, tant fut cette vie aventure où l'homme a pris grandeur nature, sa voix par-dessus les forêts, les monts, les mers et les secrets. Et j'en dirai, et j'en dirai. Oui, pour passer le temps, je chante au violon s'use l'archer, la pierre au jeu des ricochets, et que mon amour est touchante près de moi dans l'ombre penchante. Oui, pour passer le temps, je chante. La 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 la. Je chante pour passer le temps, oui, pour passer le temps, je chante.
Le Ferry Club sur Radio Libertaire.
Léo, il avait quelques ennemis intellectuels, des gens qu'il détestait. Pierre Boulez faisait partie de ses ennemis intimes. Et un jour, Léo, on était à Liège, et Léo commence son récital, et au milieu du récital, il fait « Vous l'avez vu, l'autre, en train de chier sur scène ?» Là, un froid dans la salle, quand même. Et Léo s'arrête et dit « Oui, oui, vous, les Liégeois, c'est bien vous qui avez mis au monde cette créature, Henri Pousseur. » Alors, Henri Pousseur, c'était un compositeur contemporain de musique dodécaphonique. Et Léo ne supportait pas, quoi.
Ouais.
Et voilà Léo sur scène qui se met à lancer des invectives contre Henri Pousseur et le public qui était...
Quand il devait être pantois, quoi.
Mais Léo savait, lui, plus personne connaissait Henri Poussin, même les Liégeois, tu vois, c'était... Voilà, j'ai vu faire des trucs comme ça. Ou...
Comment il était dans son rapport avec les gens, avec, tu le voyais en contact avec son public?
Sauf la période où il avait peur, parce qu'on l'agressait physiquement. Mais vraiment, on essayait de lui foutre des coups, on lui crachait à la gueule. Autrement, il était adorable avec son public. Mais humble d'abord, c'était pas la vedette qui condescend à... Non, vraiment.
Accorder un peu de temps à...
Voilà. Après, il a été obligé d'arrêter ça.
Oui, bah si on lui balance des pavés dans la tronche aussi...
Autrement, vraiment, normal. C'était... personne dira à quel point Léo était, c'est un terme souvent péjoratif, mais gentil. C'était un type gentil. Il le disait lui-même, souvent dans les interviews, on lui disait « Mais oui, vous avez le caractère difficile, vous êtes comme ci. » Et Léo disait « Mais vous... » Et il avait raison, il disait « Mais vous ne savez pas comme je suis gentil. » Il avait bien conscience d'être un type gentil, vraiment. Et pas au sens cucu qu'on veut bien dire.
Oui,
vraiment gentil.
Ouais. Et il devait être un peu différent avec les gens de l'industrie, du show business, des salles, etc. Il était... Mais gentil aussi, ouais.
Il fréquentait pas les gens du show business. Moi, je l'ai pas vu avec les gens du show business. Il a une fois déjeuné avec Aznavour.
Oui, oui.
Mais non, il fréquentait pas. Hein. Ouais. Non, il connaissait pas ça. Pas du tout.
Ouais. Et avec les gens de l'industrie, avec les gens de chez Barclay. Oui, Barclay à l'époque, ouais.
Ben, ils connaissaient Richard. C'est tout. Hein. Ouais. Après les autres.
Qu'il n'avait pas à se les coltiner, et puis c'était pas plus mal, quoi.
Non, il n'y avait que Richard.
Ouais, bien sûr.
Et Richard était un copain artiste, parce que Richard, au départ, est un imitateur.
Ah ouais ?
De génie.
Ah ouais.
Il fallait voir Richard imiter Léo. En face de Léo. C'était extraordinaire. Tu ne savais pas lequel était plus Léo des deux ?
À ce point-là,
oui. Ah oui, c'était fantastique. C'était un très, très grand imitateur. Et donc, il y avait un rapport différent. Richard était directeur artistique, mais était un artiste lui-même. Il s'était connu sur scène. Léo l'avait vu sur scène, au cabaret. Tu vois, il y avait une relation absolument formidable entre eux deux. Et Richard, que beaucoup de gens n'aiment pas, parce que c'est vrai qu'il était imprévisible et que son alcoolisme l'amenait à faire n'importe quoi. Quand Léo a quitté Barclay, dans des conditions un peu fracassantes quand même, la séparation Eddie Barclay-Léo, c'est pas simple, quoi. Parce que c'est quand même aussi une histoire d'amour. Mathieu peut-être aimerait pas qu'on dise ça, mais Barclay-Léo, c'est une histoire d'amour. Pas d'amour amoureux,
oui.
D'amour, de relation d'amour, qui a mal tourné, parce que Barclay a été con. Vraiment, Barclay a été très con. Un jour, Barclay demande à Léo, qui orchestrait ses chansons lui-même, les derniers disques de Léo, c'est lui qui dirige l'orchestre, c'est lui qui a fait l'orchestration. Et Barclay, un peu avant la rupture, dit à Léo, c'est qui maintenant ton nouvel orchestrateur ? Léo m'a dit, mais tu te rends compte ? Il me demande ça. Il ne sait même pas que c'est moi. Donc des balourdises, des conneries de Barclay, en fait, qui se sont séparés. La séparation, elle a eu lieu à Avignon. J'y étais, alors, ouais. Je veux dire que... C'était un moment terrible, parce que... Bon, Léo, quand il se mettait à avoir de la rancœur pour quelqu'un, par contre, ça, c'était... Terrible. Et puis, il était intraitable, impayable et vache. Alors là, il pouvait être vache. Il envoyait des trucs terribles, quoi. Et Barclay n'était pas à la hauteur de Léo au niveau du verbe et de l'argumentation. Donc, c'était une rupture absolument terrible.
Tu t'en as été témoin ? Enfin, il y a un moment précis dans cette...
Oui,
dans
quand cette... Léo était venu... à Avignon, au théâtre du Chêne Noir, qui était un peu un théâtre anard aussi. Hein, et il était venu pour diriger là avec le grand orchestre d'Avignon. Léo n'avait pas souvent l'occasion de diriger avec des orchestres. Hein, et c'était après le Palais des Congrès, cette histoire-là. Et Barclay est venu et, en pensant qu'avec... un déjeuner, ça allait s'arranger. Et Barclay est venu suppliant. Mais c'était presque ne me quitte pas de Brel, quoi, tu vois. Voilà.
Et Léo, comment il réagit,
ouais. Et Léo a dit, non, c'est fini. Ouais. C'est fini. Vois avec mes avocats. Terminé.
Ça a le mérite de la clarté. Lorsqu'on...
Oui, mais c'est... Moi, je dirais que c'est pas complètement juste. C'est-à-dire que Barclay ne méritait pas. Moi, quand je parle de Léo, je suis obligé de dire ce que je pense. Je vais pas.
Oh, mais tu fais bien.
Je pense que là, Léo s'est trompé, quoi. Léo s'est trompé.
Qu'il aurait dû être plus coulant, plus.
Oui. Oui. Mais il a été. Parce que Léo. En même temps, c'était un peu aussi le dernier qui a parlé peut avoir raison. Et le PDG de chez CBS, qui a chopé Léo, quoi.
Oui, après Barclay.
Pendant Barclay.
Pendant, tout à fait.
Et donc, c'est comme ça que le dernier disque s'est appelé Ferré Muet. Parce que Léo était chez Barclay contractuellement. donc ne pouvait pas chanter. J'ai assisté à toutes les tractations avec le PDG de chez CBS, qui a accepté un disque muet qu'avec la musique. Je trouve ça moche à tout point de vue, quoi. C'était, ça a été mauvais et pour Léo. Ce disque muet est inutile. Léo le faisait pour se venger de Barclay. Tu vois, mais moi, je pense qu'ils auraient dû... mais peut-être que je transpose aussi, parce que je vois, moi, ma rupture avec Léo, tu vois, qui a été injuste. Il n'y a eu personne, quoi, pour dire « Allez, bouffer ensemble et enterrer cette hache de guerre ridicule, parce que Barclay a fait, je crois, hein, tout ce qu'il fallait, quoi. » Voilà. Alors, Mathieu Ferré, on a une vision un peu déformée, parce que Mathieu, il était très petit quand même quand cette histoire est arrivée. Et quand Léo détestait, il détestait très fort. Je sais, puisque j'ai eu à en pâtir. Donc je sais qu'il pouvait aller très loin, quoi. Et il s'est mis à haïr Barclay à un point pas imaginable, quoi. Et je me souviens de Mathieu, qui avait donc, au moment du Palais des Congrès, Mathieu devait avoir 5 ans ou 6 ans. Il était venu. Léo avait gardé Mathieu en même temps qu'il répétait pour le Palais des Congrès avec le grand orchestre. Marie n'était pas là. Hein. Léo faisait la nounou de Mathieu tout petit. Il vivait... Il n'était pas à l'hôtel, il vivait chez Pia Colombo et son mari, qui avait un appartement suffisamment grand, et ça permettait à Léo de ne pas aller à l'hôtel, d'être tranquille, de rentrer et de garder Mathieu avec lui. Donc il y avait Pia, il y avait moi, on entourait le petit Mathieu, tu vois, qui était un petit garçon adorable. Et le leitmotiv de Mathieu, c'était « Hé, papa, Barclay, quand est-ce qu'on le met dans la merde ?» il répétait ça. Tu vois, le... Oui. Et Léo n'avait plus qu'une obsession, c'était foutre Barclay dans la merde. Mais ça sentait l'histoire d'amour trahi, tu vois. C'était pas quelque chose de complètement raisonné. Enfin, voilà. Et Mathieu n'aimerait pas du tout que je dise ça, mais je le dis quand même.
Bon, bah Mathieu,
écoute. Oui, non, mais... voilà, c'est...
Bien sûr.
Parce que Barclay, c'était pas un sale type. C'était un... Oui, un vrai homme d'affaires, bien sûr. Mais je suis pas sûr que tout le monde aurait payé pour Léo les grands orchestres que Barclay payait. C'était vraiment... C'était des grands risques financiers, quand même.
Bien
tu vois.
Oui, bien sûr.
Il a jamais hésité. Je ne suis pas sûr non plus qu'une autre maison de disques aurait sorti Rimbaud, Verlaine et Baudelaire. Dans les conditions où c'est sorti, c'est-à-dire deux doubles albums somptueux, quand même. Et avec le grand orchestre chaque fois, avec. C'était pas mal, quand même.
C'était pas mal quand même, effectivement.
Ça existe, c'est là. C'est...
Ouais, tout à fait.
Qui aimes-tu le mieux, homme énigmatique, dit ton père? Ta mère, ta sœur, ou ton frère.
Je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, ni frère.
Tes amis,
vous vous servez là d'une parole dont le sens m'est resté jusqu'à ce jour inconnu.
Ta patrie,
j'ignore sous quelle latitude elle est située.
La beauté,
je l'aimerais volontiers, déesse.
mortelle.
L'or, je le hais, comme voix ici Dieu.
Et qu'aimes-tu donc, extraordinaire étranger? J'aime les nuages qui passent là-bas. Les merveilleux
passe pas mal de temps avec Léo, bien évidemment. Et puis, y a donc tous ces moments où tu assistes aux séances d'enregistrement dans les studios.
Oui.
Ça doit être quand même sacrément quelque chose d'assister lorsqu'on... Parce que tu aimais l'artiste, Léo, avant de connaître l'homme, et tu aimais ses chansons.
Oui.
Ça doit être très émouvant de voir la conception de certains albums, de certaines chansons, d'en être le témoin direct.
Ben, je sais pas quoi répondre à ça. Comment te dire ? J'étais transporté. C'était plus beau qu'un spectacle de Léo, c'est plus beau qu'un récital. Parce que tu voyais la musique se fabriquer. Moi, j'ai toujours pensé que, et même dans sa façon de diriger Léo, ses gestes, sa gestuelle quand il dirige, Léo est un, comment dire, un artisan de la musique. C'est-à-dire qu'il fabrique ça comme on fabriquerait un meuble. T'as l'impression, il a quelquefois parlé d'un objet manufacturé, t'as l'impression qu'il manufacture la musique, la musique est une matière qu'il façonne comme tu ferais avec de la terre glaise ou avec du bois. Il n'y a qu'avec lui que j'ai ressenti ça.
Un rapport très physique à la création.
Oui, complètement. C'était pas un intellectuel qui te crachait sa poésie. C'était un homme qui te fabriquait de la musique et tu voyais cette musique se fabriquer en même temps que tu l'entendais. Je ne sais pas bien exprimer ce que je veux dire. Et ça, je n'ai ressenti ça qu'avec Léo. Et Léo, tu as vu, toi, Léo diriger sur scène ou...
Non, j'ai vu Léo sur scène, mais diriger, non.
C'était un truc impressionnant, parce que c'était vraiment un forgeron qui forgeait l'orchestre. Alors, on lui a... Là aussi, les critiques y sont allées... Il a des bras comme des troncs d'arbres. Mais oui, bien sûr qu'il avait... Pas comme des troncs d'arbres, mais comme des bras d'ouvrier qui veut bouger son acier. Les mains d'or de Lavilliers, tu vois. Travailler encore. Quand Léo faisait de la musique, il travaillait. C'était... Alors ça plaisait pas aux intellos et aux puristes qui disaient que... Il avait donc des troncs d'arbres à la place des mains, que ça, il n'y avait aucune délicatesse dans sa façon de diriger. Qu'il avait... Peut-être, mais en tout cas, l'orchestre suivait, hein, et sacrément. Et même les gens qui étaient prêts à... Les musiciens, qui allaient en rechignant. Il y a une partie des musiciens des concerts Pas de Loup qui n'avaient pas du tout envie d'être dirigés par un artiste, entre guillemets, de variété. Qui tirait une gueule au début des répétitions et puis qui en fin de parcours lui ont fait des ovations à lui parce que alors sa façon de diriger n'était pas orthodoxe, C'est sûr que si tu avais... Il n'avait pas le vocabulaire d'un chef d'orchestre, où tu dois avoir le petit doigt en l'air et aller trois quarts à droite au départ du temps. Léo, il avait sa manière à lui de conduire sa locomotive. Mais ce qu'il en sortait, c'était... C'est sûrement pas les plus respectueuses interprétations de Beethoven ou de Ravel. Mais c'était les plus amoureuses et les plus sensuelles versions musicales de ces œuvres-là. Voilà ce que j'ai ressenti, moi. C'était formidable.
Oui, tu m'étonnes pas. Et puis, donc, tu assistes à tous ces enregistrements. Et y a, comme je l'évoquais tout à l'heure, tu nous parlais des Basta comme un moment vraiment de grande osmose. Tu avais utilisé le terme de grande osmose lorsque tu nous en avais parlé. Ça devait être quelque chose de merveilleux.
Déjà parce que c'est juste après la rupture avec Maurice Fraud et Castagnier, ce qui a été quelque chose de terrible. Hein. On ne va pas parler du tort des uns ou des autres.
Non.
C'est une rupture terrible. Pour tous.
Pour Léo aussi.
Léo était complètement abandonné. Et, d'ailleurs, il suffit d'écouter et basta. Il y a certaines phrases qui se rapportent directement à cette rupture. Il parle de la voiture où il rigolait, il parle de tout ça.
Mais juste pour celles et ceux qui ne savent pas, la rupture, elle se fait du fait de Léo ou du fait de Fro? S'il y a une responsabilité à pointer, peut-être que c'est un peu
non,
plus compliqué.
Non, elle se fait du côté de Popol.
De Popol.
Ouais. Popol était... Léo a dit que c'était le type le plus intelligent qu'il ait rencontré de sa vie. Léo disait ça en parlant de Popol. Moi, je pense pas ça. Voilà, mais... Je trouvais Popol un fantastique musicien. Avec une oreille incroyable, c'est-à-dire que un petit quart de ton de fausse note. D'ailleurs, les enregistrements avec orchestre en studio, Popol était toujours là. C'est avant la rupture, bien sûr. Hein. Et s'il y en avait un cornet à piston qui vient, un tout petit truc, toc, Popol l'avait flairé. Alors, c'est peut-être ça que Léo appelait la suprême intelligence de Popol, c'était une grande compréhension de la musique, un humour redoutable. Popol, vraiment, des petites amies à n'en plus finir. C'est la première fois que je voyais un non-voyant, puisqu'aujourd'hui on dit plus aveugle, c'est pas correct. Donc, la première fois que je voyais un aveugle ravager autant de filles, quoi. C'était, ça changeait tout le temps. Un jour, on était Studio Hoche, en train d'enregistrer je sais plus quoi d'ailleurs. Et Popol était en train de lire en braille. Parce qu'en même temps qu'il écoutait la musique, il lisait des bouquins. Et Léo lui dit, mais qu'est-ce que tu lis? Là, t'as l'air complètement... Et Popol qui fait, t'imagines pas le troisième sexe de Beauvoir, du cul en braille, tu peux pas savoir ce que ça peut faire.
Effectivement.
Bon, tout ça faisait que pour Léo, c'était... Et Popol avait a commencé à souffrir, je crois, d'être toujours derrière Léo. Alors que Popol était un bon compositeur. Il a composé des tas d'œuvres que personne ne connaît.
Non, effectivement.
Dont certaines avaient été jouées à la cathédrale de Bourges. Et des trucs absolument magnifiques. Mais Popol, ça l'emmerdait un peu d'être finalement... Le mec, au début avec le nœud papillon, une costume.
Le mec derrière, un peu quand même.
Et net, un peu derrière. Et il y avait eu une critique à la con d'un journaliste, qu'on peut nommer Louis-Jean Calvé, qui n'est pas seulement journaliste, professeur de linguistique, un monsieur très savant d'ailleurs, qui avait voulu faire un trait d'humour et qui disait un jour, on demandera. Quel est le monsieur qui chante pour accompagner Castagnier? C'est un truc de con d'écrire ça, quoi. Et Popol avait su ça. Donc il avait de plus en plus, quand même, une grosse tête, quoi.
Ouais.
Et j'ai assisté à plusieurs algarades entre Léo et Popol. Et Léo disant à Popol, tu arrêtes maintenant, tu me fais chier, tu joues ma musique et tu arrêtes tes choumaneries. Parce que c'est vrai que Léo n'arrivait plus à se rattraper à son texte parce que Popol partait dans des digressions, il faisait du Brahms, du Castagnier.
Du Schumann.
Ou du Schumann. Du Schumann. Et tout ça énervait considérablement Léo, d'accord, qui le lui disait sans aménité. Et donc un jour, Popol a dit, je joue plus avec ce con-là. Il me fait chier, je joue plus avec lui. Parce que Léo lui disait, suis mes partitions. Ouais. Tu vois, il y avait un problème d'ego, il y avait... Et donc...
Puis de divergences musicales aussi, sur le plan peut-être aussi simplement oui, artistique aussi. Peut-être.
Mais en fait, il y avait, c'était... Je crois que Popol avait envie de faire chier Léo, quoi.
Ouais,
et il avait envie d'être un peu la vedette. Donc plus il faisait d'arpèges, plus...
Ouais. Plus il était mis en valeur, d'une ouais, certaine manière, ouais.
Voilà, jusqu'au jour où... Donc il y a ce truc...
Et puis Fro part avec lui, alors, du coup ?
Alors, Popol dit... ça se passe au Québec, l'histoire.
Hein. Ah, d'accord.
Et Popol dit, à partir de ce soir, je ne joue plus. Il se démerde, il trouve quelqu'un d'autre, moi, je ne joue plus. Et Fro lui dit, non, tu ne peux pas faire ça. On doit finir le contrat au Québec. Ensuite, en France, il y a un certain nombre de galas qui sont signés. On va les faire et tu les feras. Dont l'Olympia, quand même. Tu vois. Et donc, Fro l'a fait. Mais l'ambiance de cet Olympia, c'était à couper au couteau, quand même. Et donc, Fro, monté aussi par Castagnier, hein, ils ont fait une espèce de clan.
Ouais.
Et Fro a dit, si Castagnier s'en va, moi, je m'en vais aussi. Et ils ont largué Léo comme ça.
C'est quelle année, là, tu donc c'est...
L'Olympia, c'est 72.
72, là, ouais.
Et donc, oui, six mois avant...
Et Basta, 73.
Oui, Basta, c'est juste après l'Olympia.
Voilà.
C'est juste après l'Olympia. Et là, Léo était très, très désemparé, quoi. Il n'y avait plus Popol, il n'y avait plus Maurice. Il n'y avait plus que Marsan. Et pour faire un disque extrêmement difficile, parce que c'est pas un disque facile à faire, hein, Basta.
Oui.
C'est pas des chansons qui s'enchaînent. C'est pas... Et là aussi, je dis que c'est... Barclay l'a sorti. Et il savait très bien qu'il allait pas en vendre. Qu'il y aurait aucun passage radio. C'est pas possible. C'est pas... Je trouve ça plutôt bien qu'il l'ait fait.
Oui, tout à fait.
Et moi, j'étais ravi parce que je suis égoïste. Il n'y avait plus personne à côté de Léo, quoi. Donc, l'amour n'était plus partagé par personne. C'était un moment...
D'intimité ?
D'intimité très, très, très... Ouais. Et ça m'a permis, moi, de me libérer et de faire une... Je crois qu'avant, je n'aurais pas osé, et puis elle n'aurait pas été acceptée, faire une pochette avec la gueule d'un corbeau.
Oui. On en parle maintenant, si tu veux.
C'est court. C'est,
ouais, ouais.
Bon, il était convenu que je faisais la pochette. Mais ça m'a pris comme une envie de pisser, hein, de faire ça. Donc, on passe la journée et la nuit à enregistrer. Je dis « on », parce que... moi, je n'enregistre pas, mais je suis là quand même. Et en rentrant chez moi, j'ai vu l'évidence de la pochette. Et je suis parti chez Derol. Louer un corbeau empaillé.
Donc on pouvait louer un corbeau empaillé.
Oui, on pouvait louer un corbeau empaillé. Mmh. Et donc je loue le truc, je fais ma photo. Et là, je ne sais pas pourquoi, me vient l'idée de lui faire un œil comme un œuf au plat. C'est surréaliste un peu, tu vois. Ouais, ça, c'est un œuf au plat, son œil. Voilà, avec ce jaune d'œuf autour de l'œil... Je fais ça, et puis je ne sais pas si Léo va... Si je m'en fous, si Léo va le prendre ou pas le prendre. Je prépare mon image, je la lui apporte, et Léo me regarde et il fait « Je le prends, là !» Et il se frappe sur la poitrine et il pleure. Et on a fait la pochette. C'est formidable. C'est la dernière pochette que j'ai faite de Léo de son vivant.
Ouais.
Après, j'ai fait beaucoup de pochettes de Léo, mais c'est les pochettes, je veux dire, posthumes, ouais, qui ont été réutilisées pour refaire des CD. Alors moi, j'avais travaillé qu'en 33 tours avec Léo. Hein.
Mmh. Oui, donc le format est chouette en plus.
Ah, parce que travailler, c'était un régal.
Oui, bien sûr.
Ton corps est comme un vase clos, j'y pressens parfois une jarre, comme englouti au fond des eaux, et qui attend des nageurs rares, tes bijoux, ton blé, ton vouloir, le plan de tes folles prairies, mon squale qui viendra te voir du fond de moi, si tu l'en pries. Mon squale qui viendra te voir du fond de moi, si tu l'en pries. Une herbe douce comme un lit de taffeta de carne, une source dans le midi, quand l'ombre glisse et me décharne, un sentiment de rémission devant ta violette de Parme, me voilà soumis comme un pion sur l'échiquier que ta main charme. Me voilà soumis comme un pion sur l'échiquier que ta main charme. Mon organe qui fait ta voix, mon par-dessus sur ta bronchite, mon alphabet pour que tu croies que je suis là quand je te quitte. Ma symphonie dans ton jardin, la mer dans ta rivière close, l'aigre parfum de mon destin sur le delta d'où fuit ta rose. L'aigre parfum de mon destin sur le delta d'où fuit ta rose. L'odeur canaille de ta peau tendue comme un arc vers sa cible, qu'en pointe de mes oripeaux, le point de mire inaccessible, du feu pour le bel incendie que j'allumerai à ta forge cette nuit, puisque tu me dis que ça te remonte à la gorge. Cette nuit, puisque tu me dis que ça te remonte à la gorge. Et moi qui ne suis pas régent de tes propriétés câlines, j'irai comme l'apôtre Jean dormir un peu sur ta poitrine. J'y verrai des oiseaux de nuit et leurs géométriques ailes ne pourront dessiner l'ennui dont se meurent les parades. Pourront dessiner l'ennui dont se meurent les parallèles.
Prenez soin de vous, prenez soin d'elle.
C'est la fin du Féri Club.
Ouais.
À la semaine prochaine.
Voilà.